peux pas me rapprocher, moi. Mais si vous avez envie d'être plus proche, n'ayez surtout pas peur. On sera vraiment très contents. Et on est d'abord très heureux d'être avec vous. Ce qu'on aimerait faire en fait ce soir, c'est vous livrer un peu notre vie telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent. Dieu est constamment en train de rechercher des personnes, des hommes, des femmes qui sont disponibles pour accomplir ses immenses desseins. C'est pas petit. Ce que Dieu fait, c'est jamais petit. Donc il cherche des hommes, quels qu'ils soient, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle société. Il cherche des gens qui vont devenir ses ouvriers pour établir son royaume sur terre. Tout ça, vous le savez. Et j'aimerais justement parler une de ces ouvrières. J'aimerais que vous découvriez, en tout cas, une de ces ouvrières qui est française, qui vient du sud-ouest, qui est née dans le Lot. Donc vous connaissez un peu le Lot, ce département un petit peu juste au-dessus là, et qui a travaillé dans plusieurs nations, notamment le tout au nord du Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, et puis ensuite l'Afrique du Sud, Madagascar, et puis ça a continué dans les pays de l'Est, en Russie et en Asie, etc., etc., etc. Voilà. Depuis 3 ans et demi, on est de retour en France, on habite à Toulouse, et c'est de là que, d'ailleurs, la devise de cette ville, c'est Colomiers, terre d'envol. On habite à 10 minutes de l'aéroport, et voilà, on fréquente pas mal les aéroports, et depuis 3 ans et demi qu'on est de retour, on a fait 22 pays. Voilà. Mais on est plus particulièrement engagé envers 10 nations francophones qu'on suit très 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 régulièrement. Voilà, alors ça c'était juste une petite introduction, et puis Martine, tu as ton micro. Je vais simplement poser d'abord une question toute simple. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton arrière-plan familial, spirituel, de tes expériences, tes premières expériences spirituelles, puis aussi de tes aspirations profondes dans la vie?
Alors, quand même, je vous dis bonjour à Toulouse, parce que je ne vais pas forcément le regarder, parce qu'il connaît déjà toutes les réponses, mais je vais vous regarder à vous. Et mon arrière-plan, comme il l'a dit, je suis née à Arras, mais j'ai grandi dans le Lot. Et le Lot était, en ce temps-là, un vrai désert spirituel, puisque je n'ai rencontré un chrétien protestant seulement quand je suis allée dans la capitale, à Toulouse. Donc je ne savais même pas, excusez-moi, parce que je viens d'un milieu assez... un arrière-plan pas du tout croyant. Je ne savais même pas que les protestants existaient, j'avais aucune idée que les évangéliques existaient. Mais à l'âge de 7 ans, il y a un petit événement qui s'est passé dans l'école où j'étais à 7 ans. Il y a une sœur, une missionnaire catholique, qui est venue montrer quelques diapositives de son travail d'infirmière parmi les enfants en Afrique. Et je me rappelle être rentrée à la maison et avoir dit à ma maman, quand je serai grande, je voudrais aller en Afrique et j'aimerais soigner les enfants en Afrique. Ma mère, elle se rappelle encore de ça. Bon, après, adolescente, il y a eu des moments très, très difficiles dans ma vie qui ont fait que j'ai pensé... Le monde adulte est tellement cruel, il faut que je devienne forte pour me protéger. Et comme mon grand-père était un spirit bien, bien puissant, je vais dire, il m'a transmis certains de ses dons et j'ai viré dans l'occultisme. Et ça, c'était mon adolescence. Puis, j'ai commencé mes études de médecine. Alors, ne croyez pas que j'ai fait ça par vocation à ce moment-là. J'ai commencé des études de médecine parce que dans ma famille, il y avait des médecins et je pensais que ce serait un bon moyen de gagner de l'argent et puis voilà. Mais le Seigneur me cherchait vraiment. Et quand j'ai commencé à travailler dans un hôpital pendant mes vacances, là, j'ai eu des rencontres très, très fortes avec Dieu parce que j'ai vu pour la première fois une personne qui mourait Et dans cette clinique, elle m'a pris par la main après un accident de voiture et elle me dit, aidez-moi, je vais mourir. Enfin, c'était très rapide, mais elle est morte et je n'ai rien pu faire et rien pu dire. Et j'étais complètement désemparée. Et peu de temps après, je me retrouve dans un cimetière pour invoquer les morts. Et au moment où j'allais faire cette pratique, il y a une amie à moi qui était avec moi pour faire ça, qui me dit, Martine, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, écoute, je n'y crois pas, mais s'il existe, il pourrait te sortir de là où tu es, parce qu'elle était dans des problèmes énormes. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai senti que Dieu était vivant. Et je suis retournée à la fac 2 mois plus tard, et dans le même intervalle de temps, ma meilleure amie de fac, elle avait rencontré Jésus. Et donc, je me suis convertie quelques temps après, une conversion radicale. Et une semaine après, j'étais baptisée du Saint-Esprit dans ma chambre. Toute seule dans ma chambre. Après, voilà, c'était un petit peu de mon arrière-plan. Je partage ça parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre voyage, nous avons vraiment travaillé parmi les peuples animistes. Et j'avais un certain arrière-plan animiste qui m'a permis aussi de comprendre ce milieu-là.
Martine, on dit que nos choix quotidiens créent en nous des habitudes et que ces habitudes forgent en nous un caractère et que ce caractère, finalement, nous oriente notre destinée. Alors, j'aimerais justement te poser cette question. Quels ont été pour toi des choix quotidiens importants dans ta marche avec Jésus et qui finalement ont orienté ta destinée?
Je pense que un des choix les plus importants dans ma vie, qui a été un tournant, a été une fois je me suis convertie, comme je vous l'ai dit, j'ai participé à la vie d'une église qui s'appelle l'Assemblée chrétienne de Toulouse, mais à l'époque ça s'appelait autrement. Et on était un groupe d'étudiants et on vivait une forte communauté ensemble. Et je vivais avec 12 autres filles dans des appartements. On voulait vraiment grandir ensemble comme disciples. Donc ça, c'était un choix important, la vie communautaire, et grandir comme un disciple dans la vie communautaire. Et j'étais aussi responsable de cette petite communauté. Et ça m'a ça fait partie, je pense, de ma formation qui a dessiné mes années futures. Mais un grand tournant a été une fois dans mon église, il y a eu un médecin malgache qui est venu faire un séminaire sur l'occultisme. Donc, rien à voir avec la mission. Mais à la fin de son séminaire, il parle des chrétiens de Madagascar qui vivaient la persécution en ce temps-là. Et ça m'a profondément touchée. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant tous les dimanches soirs, je vais prier pour ce pays. Et je m'enfermais. Quand vous êtes 12 personnes vivant ensemble dans la communauté, c'est un peu spécial. Hein? Mais je m'enfermais tous les dimanches soirs dans ma chambre et j'ai prié pour Madagascar. Et les premières
c'était
personnes...
C'était en quelle année?
Oh, ça, c'était, je pense, en 78. Donc, il y a longtemps. Hein? Je ne vous ai pas dit mon âge. Mais les premières personnes que j'ai vues après venir au Seigneur dans la rue ont été une famille malgache. Donc j'ai vu à ce moment-là, waouh, il y a un lien très très fort avec mon intercession et ce que je vais voir. Et j'ai commencé à prier pour d'autres pays de la terre, toujours dans ma chambre. Et puis au bout d'un moment, il y a des personnes, les filles qui vivaient avec moi en communauté, me disent, mais qu'est-ce que tu fais finalement le dimanche soir? Tu t'enfermes là, tu n'es pas avec nous, qu'est-ce que tu fais? Alors je leur ai dit, écoutez, je prie pour les nations. Et si vous voulez, on peut le faire ensemble. Et on a commencé à vivre des temps d'intercession pour les nations dans cette communauté, vraiment fort. Et je crois dans l'église, à ce moment-là, il y a eu des visages de différentes couleurs qui se sont rajoutés. Alors, oui, ce choix de rentrer dans la prière, ce choix de devenir quelqu'un qui passe du temps avec Dieu pour prier pour les nations, a façonné ma destinée, j'en suis convaincue. Et ce n'était pas seulement prier, mais c'était aussi prendre l'habitude de pouvoir être un témoin pour Jésus partout où j'allais. Et en premier, bon, c'était à la fac, et, puisque j'ai fait de longues études. Donc, il y a plusieurs de mes collègues qui ont pu rencontrer Jésus. Et aussi à l'hôpital, il y avait des occasions incroyables, dans la rue. En fait, l'évangélisation, c'était vraiment une passion. Et je suis vraiment... ouais.
Donc finalement, ce choix d'aller, de partager l'évangile, c'est devenu une habitude.
Oui, ouais, c'est devenu un style de vie, ouais, une habitude.
C'est devenu un style de vie et ce style de vie a orienté ta destinée.
Vraiment.
Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a encore d'autres choix que tu aimerais mentionner ou...
Non, je crois que c'est l'essentiel.
Mmh. Ouais.
Ouais.
Mmh. En fait, dans ces années-là, dans ces années 75-80, dans les églises charismatiques, la vision missionnaire de l'église était, en fait, on peut dire, quasi inexistante. Dans la plupart des églises. Alors j'aimerais te poser simplement la question, comment a été accueilli ton appel et surtout cette vision missionnaire par l'église?
Alors quand je dois peut-être rajouter que plusieurs fois quand je priais, je priais pour qu'il y ait des ouvriers qui viennent dans la nation. Et très souvent, le Seigneur me disait, mais est-ce que tu es prête à être la réponse à tes prières? Et je sentais que si je ne disais pas oui, ben je ne pouvais pas aller plus loin dans l'intercession. Donc, j'avais appris à dire oui à Jésus pour être prête à aller n'importe où. Et donc, quand le Seigneur m'a appelée à la fin de mes études de médecine, en fait, juste, je le mentionne, j'ai fini mes études de médecine et... donc j'ai fini mes études de médecine et puis j'avais vraiment beaucoup d'opportunités parce que le Seigneur est vraiment béni dans mes études et à la fin on me proposait des postes à l'hôpital, de belles opportunités et ma famille était très très contente que enfin peut-être j'allais m'assagir parce que ma famille n'avait pas du tout accepté ma conversion. Pas du tout accepté au point qu'il avait fallu que je paye mes études et que je fasse des ménages pour pouvoir payer mes études. Mais une fois que j'ai eu mon diplôme, ma thèse...
Et quand est-ce que tu faisais ces ménages?
Alors, je faisais mes ménages ben, le soir, la nuit, des fois le week-end. Donc ça j'ai fait ça pendant les... quand j'étais au début de mes études. Après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler comme infirmière, aide-soignante, infirmière, en même temps que je faisais mes études. Donc j'ai pu payer mes études. Et à la fin, mes parents pensaient peut-être, ça y est, maintenant, elle a sa thèse, elle va s'assagir. J'avais demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que je poursuis cette carrière? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus me dit, mais maintenant, tu es la réponse à tes prières. Alors, ne croyez pas que c'était difficile. Non, j'ai dit oui à Jésus avec une grande joie. Et j'ai dit oui à Jésus, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Et parce que le Seigneur veut nous parler de façon précise. Et le Seigneur m'a donné un mot, c'était le mot Fulani. Alors j'ai pensé que c'était le nom d'un peuple. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas faire avec Google et savoir où se trouvaient les Fulani. Donc j'ai commencé à prier pour les Fulani avec mes copines, enfin mes amies, qui j'ai dit, écoutez, il me semble que je vais aller parmi les Fulani, mais je ne sais pas encore où ils sont. Mais on prie pour les Fulani ensemble. Et finalement, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, mais je vais vous, peut-être... il y a une porte qui va s'ouvrir pour que je puisse partir parmi les Peuls au Burkina Faso. Un travail d'implantation d'église et un travail médical. Et j'avais vraiment la paix dans mon cœur. Donc j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas. On prie pour les Fulani depuis plusieurs mois, mais finalement, c'est une porte parmi les Peuls qui s'ouvre. Donc j'ai pensé quand même que c'était ça que le Seigneur voulait. Et c'est juste une semaine avant de partir, que je me promène dans les rues de Toulouse et que je vois dans une agence de voyage une grande photo sur les Peuls au Burkina Faso. Donc je m'arrête et je vois écrit tout en petit en bas les Peuls, aussi appelés Fulani. Et c'est une expérience vraiment qui a été très importante dans ma vie, parce que quand on va dans des endroits qui sont difficiles, et les Peuls étaient un peuple musulman, complètement musulman à l'époque, complètement noatin, donc c'était important d'avoir une confirmation du Seigneur. Alors, comment a été, pardon, j'ai dévié un peu, mais comment a été accueilli mon appel par ma famille? C'était la pire des colères, bon, mais c'est pas grave. Par les responsables de l'Église, il faut que vous essayiez de vous imaginer quelques années en arrière. Dans nos églises, on ne parlait pas du tout de la mission. Et donc, c'était quelque chose vraiment de nouveau. Et quand je suis venue avec cette idée, heureusement que j'avais ces amis dans cette petite communauté de femmes qui me soutenaient, parce que j'avais l'impression d'annoncer une idée venant de Mars. Et au début, on m'a dit non, 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 parce que tu ne vois pas tous les besoins qu'il y a en France. Mais j'ai vraiment... je bénis le Seigneur, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dit, écoutez, j'entends que vous dites non, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez reprier? Et est-ce que vous pourrez réécouter Dieu? Et on a reprié ensemble avec ces responsables de l'Église, que certains d'entre vous ne vous connaissent du reste. Et une fois qu'on a prié, le Seigneur leur a dit, mais clairement, laissez-la aller dans les nations. Et donc, ils m'ont laissé aller en me bénissant. Et voilà, je suis partie comme ça.
Martine, est-ce que finalement dans ce voyage vers ta destinée, est-ce que tu as rencontré encore d'autres obstacles qui auraient pu finalement t'arrêter et de t'empêcher d'entrer?
Alors, il y avait un grand obstacle. C'était ma santé, parce que j'avais une maladie du cœur qui faisait que j'avais beaucoup de contre-indications à aller vivre dans le désert, dans des endroits où il n'y avait pas de soins médicaux possibles, parce que j'avais un problème avec un souffle, une malformation au cœur. Donc ça, c'était vraiment l'obstacle pour moi. Mais je le mentionnais très, très peu autour, parce que j'avais peur que ça mette des pressions. Et un jour, c'était 2 semaines avant que je ne parte, j'étais vraiment déterminée à partir. Et dans ma chambre, le Seigneur est venu me visiter. Et c'était un temps tellement extraordinaire de la gloire de Dieu. Et j'ai été guérie instantanément. Ouais.
Et... Le Seigneur est venu dans ta chambre.
Le Seigneur, il est venu dans... En fait, c'était même pas ma chambre, parce que j'avais pas de chambre, mais j'étais chez des amis. Mais là, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, tellement que c'était fort. Et il m'a guérie, et j'ai plus été empêchée par rapport à ça, en tout cas. Un autre obstacle, ben, je pense que c'était les finances, parce que je partais, j'avais travaillé pour payer mon billet d'avion, et je partais sans argent, donc juste avec un petit peu d'argent pour pouvoir manger au début. Et vraiment, il fallait faire confiance à Dieu pour tout. Et donc ça, c'était aussi un des obstacles, voilà. Puis...
Donc te voilà donc à la porte de ta destinée. Tu viens de finir tes études, qui étaient brillantes. Au passage, elle était le plus jeune médecin de France. Et tu es parti. Tu pouvais aller à Paris, tu pouvais aller dans beaucoup d'endroits où finalement t'aurais mené une carrière brillante. Mais finalement, tu as choisi de t'expatrier parmi les Peuls, un peuple nomade, 100% musulman, complètement au nord du... on peut dire presque dans le désert, donc dans le Sahel, tout au nord du Burkina Faso. Alors, je vais te poser une question un peu bizarre, mais finalement, pourquoi avoir rejoint ce qu'on appelle une organisation missionnaire? Donc, je crois comprendre que tu étais dans une petite organisation missionnaire qui s'appelait l'AMI. Et pourquoi pas, est-ce que l'église locale pouvait pas être finalement ton organisation missionnaire? Ou est-ce que tu n'aurais pas pu rejoindre une église locale là-bas?
Alors, rejoindre une église locale là-bas, c'était vite vu parce qu'il n'y avait pas d'église. Je partais donc parmi le peuple Peul, qui était vraiment non atteint à l'époque et qui représente 35 millions de personnes en Afrique. Les Peuls, c'est un peuple nomade, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui sont du Tchad jusqu'au Sénégal. Et c'est eux qui ont amené l'islam, en fait, vers le sud, quoi. Et donc, comment est-ce qu'une église locale, même si elle a une force de prière, pouvait me soutenir pour un tel travail? Donc, ça me paraissait vraiment difficile. Et donc, j'ai rejoint une petite organisation missionnaire qui s'appelait Alliance Missionnaire Internationale, qui venait de Suisse, mais qui travaillait avec d'autres missions au nord du Burkina. Et on s'est retrouvé une équipe de... Il y avait 4 couples, plus moi. Donc il y avait un couple américain, il y avait un couple australien, un couple suisse, un couple burkinabé et Martine. Le problème, c'est que quand je suis arrivée là-bas, les gens ne croyaient pas au ministère de la femme. Alors ça m'était un peu égal, mais ce n'était pas si facile que ça, parce que je me rappelle être arrivée dans la capitale, à Ouaga, puis il y avait les deux couples missionnaires qui parlaient dans la chambre à côté, et ils pensaient que je dormais, puis ils étaient en train de dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on nous l'envoie une femme comme ça? Comment est-ce qu'elle peut tenir dans ces conditions? » Et moi, j'entendais ça, où je me disais « Oh là là, c'est mal parti hein !» Mais voilà, au bout de quelques mois, ils me l'ont raconté, et puis ils avaient complètement changé d'avis. Mais c'est important de pouvoir travailler venant de différentes églises. On a constitué une équipe, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une force de prière. Il y avait des gens qui priaient en Australie, il y a des gens qui priaient aux États-Unis, des gens qui priaient en Suisse, des gens qui priaient en France, et dans beaucoup d'autres endroits, parce que les Peuls ont été adoptés par beaucoup d'endroits. Et on avait une force de prière internationale que je n'aurais pas eue si j'étais partie juste envoyée, juste avec mon église, quoi. Donc c'était important de savoir qu'il y avait des gens qui priaient de différents endroits. Et en fait, Paul, il fonctionnait comme ça. Il constituait des équipes avec des gens qui venaient de différentes églises. Donc on a fait comme ça.
Ouais. Vous étiez une vraie équipe apostolique.
Oui, je pense qu'on était une vraie équipe apostolique. On était tellement différents, mais on avait le même objectif, celui de toucher les Peuls. Et je veux juste faire une petite parenthèse, parce que un de ces couples était un couple australien. Il était c'était un chirurgien, et il avait un petit hôpital, mais vraiment un hôpital dans la brousse. Quand on opérait, on faisait les césariennes, on plaisante avec les fourmis, mais on avait les bombes pour tuer les mouches au-dessus des ventres ouverts. On était vraiment dans des conditions mais terribles. Et cette personne, elle est restée dans cet endroit. Et l'année dernière, elle a été enlevée par ACMI. Et elle est toujours...
C'est Al-Qaïda, ouais, malgré l'islamique. Ouais.
Pourquoi? Et en fait, elle est donc au même des...
Alors justement, ça, on arrive à poser la question toute simple et qui nous intéresse tous, mais finalement, à quoi ressemblait ta vie quotidienne au milieu d'un peuple qui était complètement différent du tien?
Alors, c'est dommage parce que j'aurais dû amener des photos, mais c'était la vie dans une tente. Ouais. C'était la vie dans une tente de nomades. Donc les Peuls, ils ont des tentes avec des tiges de mil qui sont très faciles à déplacer. Donc c'était là. Ma vie, c'était tellement différente de ce que j'avais vécu à Toulouse. Je vivais dans une tente de nomades. Le quotidien, ben, c'était au début, c'est le dur apprentissage de la langue. Et parler avec les gens. Puis c'était, en fait, c'est des choses très simples. Apprendre à vivre sans cuillère, ça peut paraître bizarre, mais on est tellement habitué à manger avec une cuillère. Il fallait que je réalise que je n'avais pas de cuillère, qu'il fallait que je mange tout le temps avec la main. Apprendre à vivre sans pain, on aime bien notre baguette, hein. Apprendre à vivre sans chaise, ça c'est une chose qui n'est pas aussi facile parce que on est toujours en train de chercher les positions. Apprendre à vivre sans les toilettes attendre qu'il fasse nuit pour aller à quelque part. Apprendre à se laver avec un litre d'eau dans le désert. Par jour, hein, un litre d'eau par jour, parce qu'il faut garder aussi vraiment l'eau pour boire. En fait, tout ça, c'était de l'adaptation, si vous regardez
pratique.
Koh-Lanta, presque Koh-Lanta. Je vous ai dit que j'avais pas d'argent, donc c'était facile parce que il y avait rien qui me tentait. Et quand j'ai reçu mon premier mandat, c'était un mandat de 50 euros et que j'ai reçu au bout de 3 mois. C'est l'équivalent de 50 euros aujourd'hui. Mais une des choses que j'ai acheté, c'était un petit matelas mousse. Et quand j'ai eu mon petit matelas mousse, je ne dormais plus sur une natte. J'avais l'impression d'être vraiment dans un hôtel 5 étoiles. Et d'être vraiment une des personnes les plus riches. Hein. Enfin, bon, c'était, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, une chose aussi qui était difficile pour moi, qui avait vécu en communauté, c'était la solitude. Alors c'est vrai, on était une équipe, mais on se retrouvait une fois par semaine. Après, le reste du temps, eh bien, on luttait dans chacun avec l'apprentissage de la langue. On avait notre travail aussi, hein, on faisait les soins. Mais on devait travailler vraiment dur. Et la solitude, pour moi, j'avais 25 ans. Vous savez, on aime hein, se retrouver quand même entre jeunes. J'avais vécu ça, et ça, c'était une chose vraiment difficile. Et on avait du courrier seulement toutes les 6 semaines, donc on l'attendait avec grande impatience. Et je me rappelle, à un moment donné, j'en ai pleuré de cette solitude. Et je me rappelle que c'était comme si le Seigneur, il coupait aussi mon cordon ombilical, hein, qui me rattachait tellement fort avec ces gens que j'aimais, hein, de mon église, de ma communauté qui était loin, mais que je ne voyais pas. Et c'est comme si le Seigneur a dit, maintenant, tu es attaché à moi. Tu es attaché à moi et tu vas t'attacher aussi aux gens avec qui tu es, là, tu vis. Et c'est vraiment ça, ce qui s'est passé. Et dans mon quotidien, aussi, je veux dire, une chose qui a fait partie du quotidien et qui était tellement difficile, c'était de voir les premiers croyants. On se réjouit quand on a les premiers croyants. La joie que ça a été quand j'ai amené la première femme, Paul, de cet endroit à Jésus. Et les larmes que j'ai pleurées quand 3 mois plus tard, sa case, elle a brûlé et elle est morte. Et un des premiers leaders aussi, des premiers croyants qu'on a formés comme leader, il a été empoisonné. Et ça, c'était aussi le début de mon temps dans la mission, des moments qu'on n'oublie jamais. Voilà.
Alors, tu as eu ce privilège extraordinaire d'amener les premiers peuls au Seigneur, qui sont représentés aujourd'hui devant le trône de Dieu. C'est fort. J'aimerais en fait que tu nous parles un petit peu de finalement, est-ce que c'est Paul, finalement les deux premiers qui sont morts, finalement qui sont comme ces grains de blé qui sont retombés dans la terre. Est-ce qu'il y a eu une multiplication?
C'est long de tout expliquer,
Pardon,
mais
c'est monsieur
ouais. Il y a l'année dernière, et en fait, même il y a 2 mois en arrière, on était dans une conférence au Kenya. On était invités pour former des missionnaires qui travaillent dans les pays musulmans, en Afrique. 300 missionnaires, des endroits les plus compliqués. Et comme la Libye, comme le Somalie, le Soudan. Et l'autre orateur était un Peul. Et j'ai eu l'occasion de le connaître déjà, en fait, il y a 2 ans. Et un Peul du Burkina. Et cet homme, maintenant, il est utilisé par Dieu pour coordonner ou pour former au sein d'un mouvement de multiplication du disciple parmi les Peuls. Alors, maintenant, des Peuls qui sont des disciples du Seigneur, il y en a du Sénégal jusqu'au Tchad. Et c'est tellement quelque chose. C'était un cadeau du Seigneur, je pense, de rencontrer à nouveau Bourema le mois dernier et de se dire, oh, waouh, maintenant, il y en a qui courent avec cette flamme et qui passent le relais à d'autres. Alors, beaucoup de ces églises sont des églises nomades, parce que ce sont des peuples semi-nomades ou nomades, et ils se retrouvent pas forcément dans des bâtiments, hein, ils se retrouvent dans le désert, ou ils se retrouvent sous des arbres, mais ils sont des disciples de Jésus. Et ça, c'est réjouissant, parce que je sais que là-haut, je vais retrouver plein de peuls. Et je veux juste. Je peux raconter un livre, donc.
Mais là, c'est un plaisir, un immense bonheur de voir finalement un peuple qui vient au Seigneur. Mais d'une manière plus pratique, est-ce que tu as eu d'autres plaisirs? Est-ce que le Seigneur t'a accordé d'autres plaisirs sur place et qui correspondaient à toi?
Alors, quand j'étais jeune, enfin, avant que je sois convertie, hein, j'avais un rêve, c'était de faire le rallye Paris-Dakar. Et, oh là là, j'ai été souvent arrêtée pour excès de vitesse. Mais combien de fois j'ai dû me faire arrêter, j'ai dit, oh, je roule trop vite, excusez-moi, mais en fait, j'aimais beaucoup les rallyes et la vitesse. Et il y en a qui me regardent avec des yeux étonnés, mais c'est la vérité. Et alors, quand j'étais donc au Burkina, mon travail consistait à aller de campement en campement pour soigner les gens. En ce temps-là, c'était dans les années 82, il y avait une grande famine dans le Sahel. Donc la situation était mais vraiment dramatique. Et il n'y avait pas d'eau, en fait. Et les gens devaient. Je me rappelle encore que les femmes, elles partaient faire les queues à ce qu'on appelle le marigot. Hein, et ils creusaient des trous dans le marigot pour que l'eau monte pendant la nuit. Et elles attendaient là pour avoir un peu d'eau. Donc c'était vraiment la sécheresse. On devait souvent brûler les cadavres des vaches qui étaient là dans le désert. Et donc, moi, je devais aller d'un campement en campement pour soigner les gens. Et je conduisais un mini-mog de l'armée. De l'armée, je crois que c'était un mini-mog de l'armée allemande. 16 vitesses. Et alors, franchement, à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à faire de la vitesse. Mais je me disais, mais le Seigneur, il a utilisé quand même beaucoup de mes rêves d'enfant pour pouvoir m'amener à faire des choses un petit peu folles. Et je me rappelle tellement souvent que je me faisais arrêter par la police, en plein désert, il y a quand même la police, et qui disait, il est où le chauffeur? Et bien le chauffeur, c'était moi, et c'était trop amusant. Et après, j'ai travaillé en Mauritanie, et donc c'était 3 ans plus tard, et j'ai travaillé en Mauritanie aussi, dans des endroits donc au nord, près du Maroc, à conduire encore des Land Rover dans des endroits désertiques. Je pense que le Seigneur m'a faite pour aimer conduire dans le désert. À ce moment-là, maintenant, je n'aime plus du tout. Hein. Mais depuis que j'ai eu des enfants, je n'ai plus du tout aimé. Mais le rallye Paris-Dakar, je l'ai vu bien des fois et je préfère vraiment avoir servi le Seigneur d'une autre manière que par le rallye Paris-Dakar.
Alors, on récapitule. Hein. Tu as été médecin missionnaire parmi ce peuple Peul. Puis, plusieurs années après, tu t'es retrouvé avec cette même tâche de médecin missionnaire ou missionnaire médecin, tu nous en diras plus tout à l'heure, en Mauritanie, tout près du front Polisario, donc dans une zone de guerre, en situation d'urgence dans une organisation humanitaire américaine, chrétienne, World Vision pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, tu as démarré un centre médical à Dakar, dans un quartier totalement musulman, plus un travail en brousse. Puis ensuite, quelques années plus tard, tu t'es retrouvé à Madagascar et tu as lancé un vaste programme de santé communautaire en brousse où tu as participé à la construction, enfin, au démarrage d'une quarantaine de dispensaires, là encore parmi des peuples non atteints. Alors, je vais te poser 3 questions en une. Dis-nous comment tu as concilié ton travail de médecin, parfois aussi de chef d'entreprise, puisqu'il y avait une quarantaine d'employés dans ce dispensaire à Dakar, de responsable d'équipe missionnaire, de maman de 2 enfants, d'épouse, avec l'implantation d'église. Quel était ton but final? Et finalement, comment tu as communiqué l'évangile tout en faisant du travail médical ou du travail de développement?
Wow. Ça, c'est une grande question. Mais
est-ce qu'elle est claire?
Elle est claire. Ça oui. Va. En fait, ce qu'il faut, je veux juste dire en quelques mots que ma vie, c'est un voyage, que notre vie, c'est un voyage. Quand j'étais au Burkina, j'ai vraiment, comme je vous le disais, j'ai quand même vu des peuls venir à Jésus. Dans la journée, je soignais et la nuit, je faisais l'évangélisation. Donc, c'était comme si, finalement, il y avait deux personnes. Dans la journée, il y avait le docteur. Le soir, il y avait l'évangéliste. Et tard le soir. Hein. Mais quand je suis allée en Mauritanie, Mauritanie, c'est une république islamique. À l'époque, quand je suis partie dans ce pays, il y avait un seul chrétien et il était en prison. Il s'était converti au Mali, il était en prison. Donc, pareil, mon rêve, c'était de voir des morts et des peuls, parce qu'il y avait aussi des peuls en Mauritanie, qui viennent à Jésus dans ce pays. Et je suis... Donc, j'ai été mutée, on peut dire, avec une autre infirmière française pour travailler dans le Nord. On était 2 femmes parmi un peuple complètement musulman et dans une zone de conflit, de guerre. Mais là-bas, il s'est passé quelque chose de vraiment un tournant fort dans ma vie missionnaire, je pense. C'est à un moment donné, on a eu une épidémie de choléra. Et il y avait de nombreux enfants qui mouraient. Et un jour, il y a une dame qui vient vers moi avec un bébé et elle me le met là, comme ça, là, presque dans mes bras, et elle me dit « Laisse-le ». C'était Inch'Allah, hein, c'est Dieu. Ouais. Elle me rend les médicaments, elle me dit c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'était pas la première qui me disait ça. Mais vous savez, au bout d'un moment, quand vous envoyez plusieurs bébés qui sont morts et que les mamans vous dites c'est Dieu qui l'a voulu, à moi, il y a eu. J'en pouvais plus. Et j'ai eu l'impression d'avoir une vraie crise de foi. Mais je n'avais que ma Bible, ma petite Bible que j'avais amenée en cachette en plus, parce que on pouvait pas. J'avais rien, personne vers qui poser mes questions. Et là, j'ai crié vraiment à Dieu, parce que dans ce désert, je pensais que j'allais perdre ma foi, franchement. Et quand j'ai crié à Dieu, à un moment donné, il m'a très clair, il m'a dit, Martine, il faut que tu leur enseignes tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28. Et c'était vraiment la parole de Dieu. Alors j'ai dit, ok Seigneur, si tu veux ça, dans ce pays, alors il faut vraiment que tu m'expliques comment faire. Et j'ai commencé à relire ma Bible en soulignant tout ce qui était en relation avec la santé, avec le développement. Vous savez, dans le désert, on a vachement de temps. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. À l'époque, on n'avait même pas. Il n'y avait pas Internet. J'avais même pas. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de réunion d'église. Ouais, c'est ça. Je n'avais que Jésus. Et je n'avais même pas de livre. Parce que le seul livre que j'avais amené, comme je vous dis, en cachette, c'était ma petite Bible. Donc, je n'avais que la parole de Dieu. Et je crois que là, j'ai fait mon école biblique. Et j'ai commencé à voir tout ce qui parlait de la santé, du développement, parler de la création. Et j'ai commencé à parler avec ces femmes, parce que je travaillais surtout avec les femmes en Mauritanie. Et c'était incroyable, parce que j'ai vu...
Tu as parlé de quoi ?
J'ai commencé à parler du Créateur, de Dieu qui a fait les choses bien, qui veut que leur enfant soit en bonne santé. Et petit à petit, il y a des hommes aussi qui ont commencé à entendre. Je travaillais toujours avec le ministère de la Santé, donc il y avait aussi des médecins mauritaniens qui commençaient à entendre. Et j'ai vu que j'avais une liberté beaucoup plus grande que je ne pensais. Et j'ai réalisé à ce moment-là, plus jamais je voudrais séparer le travail social du travail de l'évangélisation. Et je vais essayer de trouver des idées pour savoir comment amener les deux choses ensemble. Alors je dis que c'était un voyage, parce que ça a commencé il y a de nombreuses années en arrière. Et puis je crois que je suis toujours en train d'apprendre ça. Mais voir les deux choses intégrées me paraissait essentiel. Je vais peut-être juste donner un exemple comment on peut intégrer. Par exemple, quand on était à Madagascar quelques années en arrière, je formais des gens pour devenir des agents de santé communautaire. À Madagascar, on a travaillé pour des populations qui n'avaient aucun accès à la santé. 200 000 personnes qui n'avaient aucun accès à la santé. Et quand je dis aucun accès, ça veut dire que parfois, les gens, ils devaient faire 100 km à pied pour arriver à un dispensaire. Ça va ? On a de la peine à l'imaginer.
Quand tu es malade.
Quand on est malade, bien sûr. Hein. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, on a été sollicité pour pouvoir former des gens dans ces villages à devenir comme des infirmiers. Et qu'eux-mêmes puissent construire leur dispensaire dans le village. Et en formant des gens de ces villages qui n'ont aucun arrière-plan chrétien, un jour, par exemple, c'est juste pour donner un exemple, comment est-ce qu'on peut intégrer le spirituel et le physique. J'aurais dit, aujourd'hui, on va apprendre comment faire soigner les plaies. Je ne sais pas si Yoline était là. Ouais. Parce qu'Evelyne, elle est venue nous aider plusieurs fois. Donc on leur dit, on va apprendre comment soigner les plaies. Bon, moi, je pensais morsures de chien, des choses comme ça. Et ils expliquent, ah oui, morsures de crocodile. Donc déjà... Mais bon, donc on explique comment on fait un dépansement, comment le corps peut être blessé. Puis après, je pose la question, mais... Est-ce que le cœur peut être aussi blessé ? Et des gens qui ne connaissent rien du tout à Dieu, rien du tout à Jésus, on n'a même pas encore parlé. Il commence à dire, ouais, le cœur peut être blessé. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, j'ai perdu mon fils. Il y a 3 semaines, mon fils est mort. Une autre qui va dire, et qui a dit, en fait, c'est des situations réelles, hein, moi, mon mari me bat. Et un autre va dire autre chose. Et juste, vous voyez, en intégrant le physique et le spirituel, finalement, on arrive à avoir un temps qu'on appelle chez nous de ministère, mais on ne va jamais dire comme ça, hein, un temps où on va prier pour la guérison des cœurs et les cœurs qui se ramollissent, les cœurs qui deviennent proches les uns des autres et finalement qui nous amènent à parler de la bonne nouvelle de l'Évangile.
Merci. Donc, pour finir cet épisode Mauritanie, tu es parti. Aujourd'hui, il y a environ 4000 croyants en Mauritanie. Là encore, le grain de blé est mort et est tombé en terre. Et il a porté beaucoup de fruits. J'aimerais juste, on va zapper toute ton expérience au Sénégal, mais tu y es resté quand même 13 ans. Et tu as, entre autres, tu as démarré un centre médical qui aujourd'hui fonctionne depuis presque 25 ans, qui a soigné près de 3 millions de personnes dans un quartier totalement musulman. C'est un centre médical qui a à peu près une quarantaine d'employés. Tu peux nous donner un petit peu une expérience ou deux expériences justement de cette intégration d'un travail médical avec des principes du royaume de Dieu et en même temps amener des gens au Seigneur.
Une expérience. Dans ce centre, on avait beaucoup de patients. Tous les jours, en tant que médecin, on devait soigner entre 80 et 100 personnes juste le matin. C'était des consultations rapides. Mais on était une équipe. Donc, l'idée d'équipe, c'est toujours vraiment important. Alors, en tant que docteur, j'essayais de voir toujours les gens avec le regard de Jésus. Ça, le regard qu'on pose sur les gens, c'est essentiel. Voir comment Jésus les voit. Et essayer de voir aussi rapidement si la personne, elle a un problème physique ou elle a un problème spirituel. Donc, quand la personne avait un problème spirituel, on écrivait PS et elle allait parler avec quelqu'un qu'on avait formé comme évangéliste et qui était là pour prier, pour annoncer l'évangile plus clairement, au travers de l'éducation sanitaire, souvent, et qui était aussi formé pour pouvoir chasser des mauvais esprits. Et il y en avait beaucoup. Et je me rappelle juste, c'est un témoignage comme ça, mais juste une femme, en fait, qui était sourde muette et qui était complètement à l'ouest, sourde muette, et elle était là avec son enfant. Et puis là, je voyais vraiment qu'il y avait des problèmes spirituels, mais moi, je pouvais pas prier avec elle parce que il y en avait peut-être 80 derrière, quoi. Donc, elle va prier avec l'évangéliste. Le lendemain, elle revient dans mon bureau et l'évangéliste, il arrive juste à ce moment-là. Il me dit, Martine, tu la reconnais pas? Et je pouvais pas la reconnaître parce qu'elle parlait, elle entendait et elle était là avec son enfant. Donc, c'est aussi, en fait, on peut intégrer de différentes façons, mais je pense qu'apprendre à chasser les mauvais esprits, ça fait partie aussi des réalités de notre travail en Afrique et aussi des réalités auxquelles on doit former les gens qui sont nos disciples. Ouais. Jamais sous-estimer la puissance de l'Évangile.
Oui. Ce dispensaire aujourd'hui est considéré un comme des meilleurs au Sénégal. Et il a démarré uniquement avec des gens, parce qu'il n'y avait pas d'infirmiers, de médecins chrétiens. Donc tu as formé ces personnes. Alors justement, ça nous amène à une autre question. Finalement, t'as la compréhension de ta mission, de ton rôle a peu à peu évolué au cours des années pour arriver aujourd'hui à être finalement essentiellement une formatrice. Tu es même reconnue comme une formatrice internationale. Et Tu as formé énormément de gens. Tu as formé des gens de hautes conditions sociales, des intellectuels, des gens dans le gouvernement, mais aussi tu as formé les gens les plus pauvres des plus pauvres. Donc c'est vraiment un spectre incroyable. Et je pense à Madagascar, où les gens étaient dans une pauvreté, où vous n'avez même pas d'argent pour acheter des petites savates. Donc j'aimerais en fait te poser la question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes expériences de formation? Et quels sont les principes que tu as découverts qui ont amené encore plus de résultats? Parce que en tant que missionnaire, on est très intéressé quand même par le résultat. Voilà.
Alors,
tes expériences de formation et qu'est-ce que tu as découvert comme principe qui amène à plus de résultats?
Je pense qu'une chose essentielle que j'ai déjà mentionnée, mais c'est de voir les gens avec le regard de Jésus. Que ce soit le professeur d'université que j'ai en face de moi ou que ce soit la personne la plus pauvre, de dire « Seigneur, comment tu le vois ?» et de prendre le temps de voir la personne. Et puis, je crois qu'une autre chose aussi que le Seigneur m'apprend, c'est toujours un voyage, hein, mais c'est de s'intéresser à la personne dans sa globalité. Que ce soit une personne pauvre ou que ce soit une personne très riche, mais je veux m'intéresser à la personne dans sa globalité. Et maintenant, je travaille aussi beaucoup avec des médecins dans différents pays du monde. Et je vois aussi combien c'est important de s'intéresser à eux dans leur globalité. Alors, prendre le temps d'écouter les médecins, prendre le temps d'avoir l'amitié avec eux, alors qu'ils sont en train de donner tout le temps. Et puis, une chose aussi que j'ai vraiment apprise, à un moment donné, je crois que j'ai vécu un tournant pour sortir du mode enseignement vers un mode formation. Et pendant longtemps.
Dis-nous un peu plus.
Oui. En fait, mon tournant, ça s'est passé quand on a fait un temps en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion de vivre une formation, d'être formée comme conseillère pour ceux qui étaient séropositifs. Et en Afrique du Sud, en ce temps-là, il y avait une personne sur cinq qui est séropositive. Donc, ce n'était pas un luxe de former des conseillers, mais c'était une formation qui m'a énormément apporté parce qu'on était dans des situations tragiques, dramatiques, et la formation se passait essentiellement par le jeu, par des interactions. Et c'était impressionnant tout ce qui pouvait sortir au travers de ça. Donc, quand je suis allée à Madagascar, que j'ai rapidement vu le niveau des personnes que j'avais devant moi, que je devais former des gens qui savaient à peine lire malgache, même pas français, hein, qui savaient à peine faire des additions, j'ai pensé, si on est en train de les enseigner et de parler plus que 10 minutes, on ne va jamais y arriver. Donc, ça a été un grand, grand travail de repenser des formations médicales de par le jeu, de par plein d'activités, et finalement de faire sortir le meilleur des gens. Au travers de ça, je crois que c'est une clé que j'ai appris en tant que formatrice, c'est de voir tout le potentiel qu'il y a chez les gens et d'essayer de faire sortir ceux qui savent déjà, parce que finalement, même les gens qui sont très pauvres, très peu éduqués, ils savent beaucoup de choses. Et on a besoin de les aider à faire sortir ceux qui savent déjà et construire à partir de là. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, quand il travaille avec moi, il dit, mais tu dis tout le temps que c'est bien, tu dis que tout le temps que c'est super. Mais franchement, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est... Je pense que ça fait partie de notre nature, hein, en tant qu'enfant de Dieu, de toujours encourager les gens dans leur marche, dans leur découverte, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des instruments dans le développement, ouais. Tous les niveaux.
On peut dire effectivement que ça a eu un impact énorme puisque ces personnes avec si peu d'éducation ont atteint un niveau qui était équivalent à un infirmier d'État. Et le gouvernement a trouvé que cette approche était tellement intéressante et couronnée de succès qu'ils ont décidé de changer leur politique nationale de santé et d'adopter notre manière, la manière de Martine, d'enseigner les personnes qui étaient la plus efficace. Donc tous les directeurs et ministres sont venus sur place pour constater les résultats et finalement entreprendre des changements au niveau national. Oui. Alors justement, ça nous amène à peut-être la dernière question. J'aimerais t'en poser encore tellement d'autres. Non, il y en a encore une ou deux. Pardon. Tu as beaucoup. Finalement, tu as été sur le terrain à travailler avec les gens sur le terrain, avec les gens qui étaient pauvres pour la plupart, très pauvres. Mais en même temps, tu as beaucoup travaillé avec des gouvernants, des autorités. Pourquoi ? Est-ce que ça fait aussi partie d'un travail missionnaire ? Et puis, qu'est-ce que tu as appris de travailler avec les autorités, avec des gouvernements ? Quel genre de qualité tu as dû développer dans tes rapports avec eux ?
Oui, effectivement. En fait, j'ai toujours travaillé avec le ministère de la Santé dans les différents pays où on est allé. Parce qu'il me semble que si on veut défendre la cause des pauvres, il faut que ça devienne intégré aux politiques nationales de santé. Et si on veut travailler avec le ministère de la Santé, il faut être avec eux. C'est-à-dire quand ils vont sur le terrain, il faut être sur le terrain avec eux. Il faut qu'ils sachent qu'on se mouille sur le terrain. Et c'est important de travailler avec toutes les ressources locales dans un pays. Et puis, plus que ça, ce sont des gens que le Seigneur veut sauver. Et quand on est avec eux, dans le travail, on a des occasions de bâtir des amitiés et de parler de Jésus.
Et très franchement, dis franchement les choses, est-ce que c'était facile ?
Alors, ce n'était pas toujours facile parce que dans la culture, dans beaucoup de cultures, en tout cas la culture africaine où j'étais, très souvent, les chefs sont les chefs. Et ils aiment bien vous le faire sentir. Et puis, en tant que Française, Française plus femme, on part avec un énorme handicap. Parce que les Français ne sont pas vraiment aimés. Et donc, c'était un grand handicap. Et souvent, j'ai dû accepter, même qu'on me crie dessus au début, et comme insulte, qu'on me dise plein de choses terribles. Je revenais même à la maison des fois très découragée, mais le Seigneur savait toujours me ramener à l'essentiel et continuer à aller aimer ces gens. Et le temps me manque, mais je pourrais raconter tellement d'histoires de personnes qui travaillent dans le ministère de la Santé, qui aujourd'hui sont mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et une personne à laquelle je pense, c'était, on l'a vu naître avec Jésus, on l'a vu grandir dans les échelons, devenir responsable de la santé pour la région où on travaillait à Madagascar, et probablement elle va être le prochain ministre de la santé, mais il fait partie aujourd'hui de l'équipe à Madagascar. Et de l'équipe missionnaire. Donc on pourrait raconter tellement de belles histoires, mais c'est sûr que travailler avec les autorités, ça m'a appris peut-être la patience. Oui. Ouais.
Est-ce que tu as fait de la prison ?
Non, mais j'ai failli. Je ne sais pas si Evelyne était. Tu étais ? Oui, donc.
Ok. Bon.
Pour raconter cette histoire.
Alors, peut-être. Pour résumer, quel genre de qualité tu as dû développer dans les rapports avec eux ?
Je vais dire vraiment la patience et la prière encore. Intercéder pour eux, ne jamais s'arrêter de prier pour ces gens.
Ouais. On arrive gentiment à la fin de cet entretien. C'est pas TF1 ni Antenne 2. Hein. Dis-nous franchement, Martine, Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même en 2000, combien? 17? Toi, tu as démarré en 1982. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de missionnaires dans le monde? Et si oui, où? Quel genre de missionnaires?
Alors oui, on a vraiment besoin de missionnaires encore. Dans le monde, il y a encore 7000 peuples qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Et ces 7000 peuples, ça représente 3 milliards de personnes. Et parmi ces 7000 peuples, il y en a 3000 qui n'ont rien, aucune présence, rien du tout. Aucune action qui est faite parmi eux. Donc, on a vraiment besoin de missionnaires. Et c'est vraiment important parce qu'il s'agit de dater le retour du Seigneur. Parce que quand tous les peuples de la terre auront entendu le message, alors viendra la fin. En tout cas, on ne sait pas quand ça va se passer, mais on a notre part à faire. Alors moi, je dis oui, on a vraiment besoin de missionnaires. Et on a besoin de missionnaires dans des endroits qui sont difficiles, hein, dans les endroits musulmans, hindouistes, bouddhistes. Et dans beaucoup de ces pays, on ne peut pas y aller comme missionnaire. Alors, on a besoin d'y aller avec un métier, démarrer une entreprise. Juste pour donner ce témoignage, quand on était au Kenya, là, qu'on a formé ces 300 missionnaires qui travaillent dans les pays musulmans, la plupart, ils sont là avec un métier, un business. On rencontrait des jeunes, je vois quelques jeunes, alors j'en profite pour parler, mais des jeunes vraiment pleins de feu qui se préparent à partir en Libye. Et ce n'est pas les endroits les plus faciles, hein, et d'autres qui sont en Somalie. Mais derrière ces jeunes, ils ont des projets de démarrer des business. Mais ce n'est pas juste avec leurs finances, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas vraiment des finances. Derrière, il y a des centaines de businessmen qui investissent pour la mission et qui c'est pour ça qu'on a besoin d'organisations missionnaires et qui disent, moi je donne avec cette organisation missionnaire pour aider ces jeunes à démarrer un business en Libye pour pouvoir toucher les Libyens. Et quand on était dans cette rencontre au Kenya, ça nous a vraiment aussi touchés, hein, il y avait des représentants donc de businessmen américains, mais complètement fanatiques pour les peuples non atteints. Donc oui, Jean-Marc, on a besoin de missionnaires encore. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir. Oui. Mais c'est important de se renseigner, c'est important de prier, et d'aller.
Effectivement, je me rappelle, il y a un jeune homme qui est entraîneur de l'équipe nationale vous savez, d'athlétisme de 5000 mètres, 10000 mètres, vous savez, à Djibouti. Une autre, elle a démarré plusieurs fitness au Maroc, etc. On pourrait vous donner quantité d'exemples.
Plein d'idées, quoi.
Voilà. Donc, finalement, un missionnaire, c'est aussi un businessman.
En fait, quand on dit businessman, c'est plus une personne qui entreprend. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'entrepreneur.
Finalement, toi, tu étais aussi businesswoman.
Oui.
je peux témoigner, elle a lu tout le code du travail du Sénégal.
Oui.
Voilà. Alors, dernière question, c'est pas une question polémique, mais c'est quand même une question qui nous concerne. Certains pays, Martine, tu as travaillé avec quantité de nationalités des 5 continents. Certains pays envoient beaucoup de missionnaires, d'autres très peu, voire pas du tout. Pourquoi ? Est-ce que s'il y a une question théologique, de finances, culturelle, de maturité, de priorité ? Pourquoi ? Bien sûr, j'ai en pensé mon propre pays qui en envoie extrêmement peu.
Bon, ça c'est une question vraiment, vraiment difficile. Mais je vais juste peut-être dire une phrase. Si la mission n'est pas au centre de l'Église, l'Église avec un grand E, on ne va pas envoyer de missionnaires, on va envoyer peu de missionnaires. Et il faut que la mission fasse partie de l'ADN de l'Église. Et peut-être, en fait, je ne sais pas si vous avez prévu de venir demain, mais... Je vais parler de ça demain.
C'est Martine qui donnera le message. Ouais.
Et puis, une autre chose, c'est que dans certains pays, peut-être, et c'est rattaché à notre culture, on a beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Si on veut voir des peuples non atteints, touchés par l'Évangile, on a vraiment besoin de synergie, de se mettre ensemble. Et dans certaines cultures, c'est beaucoup plus difficile d'envisager de travailler avec des gens qui sont très différents de moi. On pense noir ou blanc, et on a du mal à avoir une vision commune et des stratégies communes. Mais je pense qu'il y a des raisons culturelles aussi à ça. Des obstacles culturels.
Voilà, donc on peut dire qu'on a amené les premiers croyants au Seigneur de 4 ethnies différentes, qui étaient totalement musulmanes, et qui aujourd'hui sont représentées devant le trône de grâce. Il y en a encore plein pour vous. Il y a le choix.
On nous a demandé de parler de la mission au loin. Hein. Donc, c'est un petit coup de pub, puisque on va changer de fauteuil.
Ah ben voilà. Il est 8h20. Vous avez vu le plan passer ou pas? On prend encore 10 minutes?
Voilà.
Ça ne me dérange pas de ne pas parler. Hein.
Donc maintenant, je vais poser des questions à Jean-Marc.
J'aimerais préciser que pour marier une femme comme ça, ce n'est pas facile. Et il faut vraiment avoir une confirmation du Seigneur. Et cette confirmation, je l'ai eue dans le désert du Sahara, où j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment Martine? Et je me retrouvais en train de visiter un ami qui travaille en Mauritanie, en plein milieu du désert. C'était la famine, comme la famine totale. Et il y avait une seule petite cabane en boue séchée. Le reste, c'était du sable. Et alors que je priais, je dis, Seigneur, est-ce que c'est Martine? J'ai ouvert mes yeux et il y avait inscrit, gravé sur cette boue séchée, il y avait marqué Martine. Donc c'était ma confirmation. Comment?
Et l'année.
Et en plus l'année de notre mariage. Voilà.
Ça va faire 30 ans. En fait, le mois prochain, ça fait 30 ans. Voilà. Alors, maintenant je pose quelques questions. Je vous pose quelques questions, Monsieur Fritsch. Après plusieurs années à avoir dirigé des équipes à court terme d'Europe vers l'Afrique, tu as passé 13 ans au Sénégal, 10 ans à Madagascar. Entre ces deux destinations, tu as passé 2 ans et demi en Afrique du Sud. Est-ce que ton travail au Sénégal et celui à Madagascar étaient le même? Parle-nous-en un peu.
Alors, au Sénégal, nous y sommes allés, on y a passé 13 ans, donc de 28 ans à 41 ans. Madagascar, c'était de 44 à 54 ans. Donc, effectivement, c'est très très différent parce que tu as un autre recul lié à l'âge. Et la deuxième raison qui fait que c'est très différent, c'est que le Sénégal, c'est 98% musulman. Là où nous étions à Madagascar, c'était des peuples animistes dont la foi ou la religion de base, c'était le culte des ancêtres. Donc forcément, c'était très différent. Mais ce qui était encore plus différent, c'était finalement notre façon de travailler. Notre façon de travailler au Sénégal et notre façon de travailler à Madagascar a vécu un changement radical qui s'est d'ailleurs passé après une année, 2 ans et demi qu'on a passé en Afrique du Sud, où ça a été comme un bilan de 13 ans ou plus, puisqu'on a, c'était plus que ça, puisqu'avant on était en Suisse. Au Sénégal, juste pour dire qu'au début, c'était très simple, notre vision était très simple, c'était de créer le maximum d'opportunités, de projets, pour que l'Évangile ait un maximum d'impact sur le maximum de personnes, dans le maximum d'ethnies du Sénégal, il y en avait 25. Ce qui fait qu'après 13 ans de travail là-bas, ben c'est ce qui s'est passé. On a démarré 13 ministères différents. D'abord ce centre médical qu'on a construit de toutes pièces. Un centre d'accueil pour les enfants, les enfants mendiants, pardon, parce qu'au Sénégal, il y a des enfants des enfants qu'on appelle des talibés. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des enfants qui étudient dans les écoles coraniques une heure par jour et le reste du temps, ils doivent mendier pour leur marabout. Donc on a créé un centre d'accueil qui accueillait 100 enfants de jour pour les éduquer, les laver, les nourrir, etc. On avait la plus grosse église, on a implanté une église à Dakar qui est devenue la plus grosse de la ville et même du pays. On avait des équipes d'implantation dans 4 peuples non atteints, différents. On a construit et démarré un centre de développement communautaire dans le centre du pays. On avait un ministère de louange et d'intercession. Beaucoup d'événements. J'ai développé la marche pour Jésus et quantité de séminaires avec Cindy Jacobs et d'orateurs internationaux qui venaient. On a développé des cases de santé dans la brousse, des rencontres, des séminaires pour leaders, pasteurs. Bref, avec Martine, on a géré tout ça. On a mis en place différentes équipes. Puis finalement, j'étais un peu partout et puis un peu nulle part. Et en tout cas, beaucoup dans mon bureau, parce que finalement, tout ça, c'était devenu comme un gros, gros, gros business. On avait une équipe environ de 40, donc entre 40 et 60. C'était assez excitant, super fatigant. Et je dirais qu'on a vécu des choses vraiment extraordinaires. On voyait la bonté de Dieu, les miracles du Seigneur, des rêves qui s'accomplissaient. Et au bout de 13 ans, on est parti, on a transmis le flambeau, et on a, dans ce pays d'Afrique du Sud, on a vécu un véritable, un changement de paradigme dans notre façon de voir notre travail. Et effectivement, les 10 années suivantes à Madagascar, suite à ce changement, ont été complètement différentes dans notre manière de travailler, mais aussi dans les résultats.
Et est-ce que tu pourrais nous citer 2 ou 3 aspects importants de ce que tu as changé dans ta manière de faire à Madagascar ?
Oui. Alors justement, l'équipe, moi-même, mais aussi toute l'équipe, on avait décidé, en étant à Madagascar, de ne plus nous disperser, de mettre toute notre énergie dans plein de ministères différents, parce qu'on avait l'impression que chaque fois qu'il y avait une vision, on la prenait. Et il fallait l'accomplir. Non, on a décidé de se concentrer sur 2 choses et le faire d'une manière le plus professionnelle et avec le plus d'attention possible. C'est l'implantation d'églises et le développement communautaire. Donc ne plus se disperser dans plein de choses, mais faire 2 choses du mieux possible, de telle manière à être une source d'inspiration pour d'autres groupes, d'autres personnes. La deuxième chose, oui, et puis que cette implantation d'église et ce développement communautaire soient totalement intégrés. Quand je travaille dans le développement, j'implante une église. Quand j'implante une église, je fais du développement. Deuxièmement, on a compris une chose, que si on veut avoir un impact, plus grand impact sur une région, eh bien, il fallait passer du mode addition au mode multiplication. Pas juste une église, mais plein d'églises. Pas juste un dispensaire, mais plein de dispensaires. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que finalement, tout ne pouvait plus dépendre de moi, de mon leadership, ou même du travail de mon équipe, mais des ouvriers qui étaient dans la moisson. Donc ça veut dire qu'il fallait que moi-même, je m'engage personnellement à quitter mon bureau et à aller sur le terrain pour former des disciples. Quand je dis former des disciples, les 12 disciples de Jésus sont devenus des leaders. Donc former des disciples, c'est former des leaders. Pas juste démarrer des programmes. J'avais vraiment la culture des orateurs. Alors on faisait souvent souvenir des super orateurs. On a arrêté tout ça. Non, maintenant c'est moi qui vais former des disciples de telle manière à ce que eux-mêmes, ça veut dire passer beaucoup de temps avec eux, quoi. Être sur le terrain, faire avec les choses avec eux. Une troisième chose, une dernière, il a fallu que je change ma manière de former des disciples. Bien sûr qu'on formait des disciples avant, mais on a vraiment changé pour que ses disciples deviennent matures et autonomes. Ça veut dire que ses disciples soient capables eux-mêmes de former des disciples, que ses disciples soient capables eux-mêmes d'implanter une église, que ses disciples soient capables eux-mêmes de diriger des projets. Et c'est ce qui s'est passé. On a formé à peu près 200 leaders. J'étais investi à peu près dans 200. Et ce sont eux qui ont démarré des orphelinats. Ce sont eux qui ont démarré des coopératives agricoles, des coopératives artisanales, des business. Ce sont eux qui ont démarré des microbanques. Tout ça, ça existe, c'est sur le terrain. Simplement parce que je me suis investi personnellement. Et ça a permis la multiplication. C'est pour ça qu'on a vu à peu près une centaine d'églises être implantées, une quarantaine de dispensaires démarrer, etc. Et je ne suis plus là, je n'ai pas besoin d'être là.
Jean-Marc, une autre question. Oui. Le mot missionnaire, finalement, il n'est pas tellement utilisé en France.
Oui.
Il est la traduction latine du mot grec apôtre. Mais dis-nous, en quoi ton ministère, pratiquement, ton ministère de missionnaire était apostolique au Sénégal et à Madagascar?
Alors, pour tout vous dire, quand on était à Madagascar, on ne s'est jamais fait appeler missionnaire, on ne s'est jamais fait appeler apôtre.
Seulement qu'on est en France.
On était directeur d'ONG parce qu'on voulait pouvoir travailler dans tous les milieux et particulièrement avec le gouvernement. Alors, c'est des grands mots, mais qui sont quand même importants. Le mot apôtre, j'ai découvert que c'était un apôtre, c'était le plus petit des esclaves au temps des Romains. C'est celui qui était envoyé pour les tâches où il n'avait pas besoin d'escorte. C'est quelqu'un qui avait très très peu de valeur, mais c'était un envoyé. Et finalement, dès le début de notre ministère, dès le début, on a appris à servir tout le monde. On a appris à servir toutes les marques d'église. Je crois que, je ne sais pas que je connais toutes les églises, mais je crois que je connais presque toutes les marques d'église pour les avoir servies. Parfois dans des choses très simples, très humiliantes même, qui semblent avoir aucune valeur, je dirais, spirituelle. Mais on était heureux de le faire. Et ça a développé en nous, je dirais, cette mentalité de serviteur. Mais aussi une mentalité, je dirais, large, ouverte à tout ce qui est bon chez les autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on intervient dans beaucoup, beaucoup de réseaux d'églises différents. Notre préoccupation, finalement, cette mentalité a fait que notre préoccupation n'était pas de développer notre ministère, que ça devienne très grand. On a travaillé à Jeunesse en Mission, mais que l'évangile puisse prospérer, puisse se développer sur toute une zone, sur toute une région, et que le maximum soit sauvé et que le royaume soit démontré. Donc notre vision, elle n'était pas juste pour notre ministère, elle était pour un territoire, pour une zone. Donc notre vision était large. Ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire ouvrir des chemins nouveaux pour l'évangile, faire constamment des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites avant. Ça veut dire prendre beaucoup de risques, bien sûr. Et que finalement, ça influence plein de gens, si ça marche. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais en général, la plupart des choses ont marché. Et que ça influence d'autres choses, d'autres personnes à le faire. Je vais prendre juste un exemple. On a été les premiers à travailler parmi les talibés. Aujourd'hui, il y a plein de ministères parmi eux, et même le gouvernement a pris cette cause en main à cause de tout ce qui s'est fait. Je crois que ça c'est être apostolique. À un moment donné, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir tous les pasteurs de la ville de Dakar où j'étais, en leur posant juste une question, deux questions. Je leur ai dit, c'est quoi votre rêve pour le Sénégal? Et les gens me disaient, waouh, mais on veut beaucoup de gens sauvés. Mais il y avait très 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 peu de fruits dans cette nation. Et on leur posait la question, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir ses rêves s'accomplir. Et puis, les gens avaient toutes sortes de raisons. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de créer, de faire une recherche de tout ce qui existait, de tout ce qui se faisait au niveau chrétien dans le pays. On a payé des gens pour ça. Et pendant une année, on a envoyé des équipes de recherche pour voir quels étaient les obstacles à l'évangile. Et au bout d'une année, on s'est retrouvé toutes les églises, toutes les missions, absolument toutes du pays, pour établir une stratégie nationale. Et à cette occasion, on avait invité Mamadou Karambiri, que vous connaissez, pour donner quelques messages sur l'unité, comment travailler ensemble. Deux ans plus tard, on a fait une évaluation du fruit de cette consultation nationale. On l'a appelée consultation nationale. Et on a vu une croissance incroyable de l'Église dans le pays. C'est ça, je crois, être apostolique. C'est pas juste vouloir que mon Église, mon organisation se développe, mais savoir une vision, comment est-ce que ma région peut voir le maximum de personnes être sauvées et le royaume démontré dans cet endroit. Beaucoup de ministères qu'on a initiés, qu'on a démarrés, développés à Madagascar, au Sénégal, beaucoup de ministères qui existent au Sénégal et à Madagascar sont le prolongement de ce que nous-mêmes avons initié. Je crois que c'est ça, être apostolique, c'est être dans les fondements. Les fondements de ce bâtiment ne sont pas visibles, mais ils sont bien là. Être un apôtre, c'est très souvent être invisible.
Jean-Marc, tu nous as parlé d'œuvres, mais donc vous avez implanté des églises aussi. Et comment pratiquement tu as commencé à implanter des églises dans une autre culture? Est-ce que tu peux nous dire rapidement ou...
Oui, alors très rapidement, je dois dire que quand on a commencé, c'était le tâtonnement absolu. On ne savait pas faire. Nous, on voulait juste reproduire ce qu'on avait vécu à Toulouse et on pensait que c'est ça qu'il fallait qu'on fasse là où on allait. Et c'était le tâtonnement absolu, mais je dois dire que le Saint-Esprit est là et Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et il nous a instruit petit à petit, il nous a enseigné des principes qu'on trouve dans le manuel du missionnaire. Vous savez où est le manuel du missionnaire? C'est Luc 9, Luc 10. Dans lequel se trouvent plein de principes missionnaires de comment démarrer des églises. Je citais juste deux ou trois principes, il y en aurait tellement, mais si on veut voir le royaume de Dieu avancer, si on veut voir des églises implantées, on entre dans une confrontation directe avec l'ennemi. Rodrigue a parlé de la prière aujourd'hui. C'est exactement ça. Si on veut faire une différence, on ne peut pas s'économiser dans la prière. Et ça a été... À un moment donné, on avait des poulets sacrifiés presque tous les jours devant notre porte. Plusieurs fois, on a failli mourir. Parce que la maladie nous saisissait et on savait qu'il y avait des gens qui luttaient contre nous. La prière, c'est la clé de tout. C'est la clé. On a amené les premiers croyants, l'Ebou, au Seigneur. L'Ebou, c'est une ethnie, c'est l'ethnie qui habite à Dakar. Qu'est-ce qu'on a fait? On a loué avec une autre organisation, on a loué une petite pièce et pendant un an, on priait. On a prié, on n'a rien fait d'autre que prier. Et au bout d'un an, le Seigneur dit, maintenant vous pouvez passer à l'action. Et alors là, on a démarré une équipe, on a une équipe dentaire. La mosquée a annoncé cette équipe dentaire. Et c'est là qu'on a vu les premières personnes, les bouts de l'histoire de l'humanité venir au Seigneur. La prière. Et puis le deuxième principe, la prière qui est suivie d'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui prient mais qui veulent pas agir. Alors pas d'action sans prière, mais pas de prière sans action. Ça c'est un principe. Et deuxième principe qui est vraiment quelque chose qu'on a découvert, pour entrer dans un endroit où l'évangile n'est pas prêché, où il n'y a aucun fruit, eh bien, le Seigneur est déjà à l'œuvre, et il est à l'œuvre d'une certaine façon au travers d'un homme de paix qu'il a préparé. Et notre travail, et mon travail, c'est de trouver cet homme de paix et d'investir dans cette personne. Je vais vous donner un exemple. Mon premier exemple, parce que je ne connaissais pas ce principe. On a été mis en contact avec un homme qui s'appelait Abdoulaye, un musulman. Et cet homme, c'était vraiment un homme qui avait une réputation, qui avait une influence sur beaucoup d'autres. Il avait une mauvaise réputation, parce qu'il avait fait des enfants partout. C'était un gars qui cognait et puis ensuite qui discutait. C'était un homme très, très, très violent. Cet homme s'est très rapidement converti. Il venait d'une ethnie dans laquelle il y avait des missionnaires qui avaient travaillé depuis à peu près 80 ans sans voir aucun converti. On a été bénis de voir cet homme se convertir. Et le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de vraiment m'investir dans sa vie, de le former comme un disciple intégral, pas juste de l'apprendre à prier, à louer, à évangéliser, mais le former comme disciple dans tous les domaines de sa vie, à apprendre à s'occuper de sa femme, à quoi faire avec tous ses enfants qu'il avait un petit peu partout. Il a été formé d'une manière intégrale dans différents domaines, dans le domaine des finances. Il avait des dettes partout. On a beaucoup parlé des finances. Et finalement, cet homme, de parler d'hygiène, de parler de... Bref. Et cet homme, je l'ai amené avec moi pour évangéliser. Et puis, cet homme a commencé à avoir de l'impact auprès de son propre peuple. Il vivait à Dakar. Et il a commencé à amener des personnes au Seigneur au bout de quelques mois, de 6 mois. Et puis, il y en avait un, il y en avait 5, il y en avait 10. Et puis, je l'ai aidé à démarrer un ministère pour aller dans le sud du pays. C'est là où se trouvait son peuple, son ethnie, les Balantes. Et c'est là qu'il a commencé à mettre en pratique cette vie du royaume. Et puis, cette dizaine s'est transformée en une centaine. Et cette centaine s'est transformée en un millier. Un jour, il m'a téléphoné, « Jean-Marc, je suis invité à une conférence. » Je dis, « Ah bon ?» Et je fais une conférence avec que des imams. Il y a 1000 imams qui se retrouvent et ils m'ont demandé de leur expliquer ce que c'est l'évangile parce que je suis le premier croyant, le premier chrétien parmi eux. Donc finalement, Dieu voulait atteindre ce peuple au travers d'un homme de paix. Et dans notre ministère, dans les années qui ont suivi, dans beaucoup de situations, notre job, c'était surtout de trouver cet homme de paix, d'investir dans cette personne pour que lui-même se multiplie, parce qu'il avait une capacité d'influencer beaucoup d'autres. Et c'est là qu'on a vu effectivement beaucoup de fruits. Un dernier principe, Martine en a parlé, et puis ce sera la fin. Il y a une chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais ça m'a pris plusieurs années, mais un missionnaire, c'est avant tout un formateur. Moi, mon rêve, c'était de devenir un super prédicateur. Ça me prenait 12 heures pour préparer un message, pour qu'il y ait la présence de Dieu, qu'il y ait l'onction, et c'était ça qui était important pour moi. Et ça ne marchait pas toujours, hein, je vous dis, ça ne marchait pas toujours. Mais finalement, j'ai découvert que mon rôle en tant que missionnaire, c'était de devenir un formateur. C'est que tout ce que je savais faire, il fallait que les autres puissent le faire aussi. Que si je faisais des choses que les autres ne pouvaient pas le faire, je restais un magnifique ministère dont les autres étaient dépendants et que je créais mon petit truc à moi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai appris à chasser des démons, et tous nos disciples savent chasser des démons. Tous, sans exception. On n'a pas besoin de ministère qui vient de l'étranger. Ils savent faire. Si je sais former un disciple, mon disciple doit savoir faire un disciple. Si je sais donner une étude biblique, il faut que... Si je sais diriger un projet, il faut que mon disciple sache diriger. Donc j'ai découvert un des principes pour pouvoir démarrer des églises, c'est comprendre que notre rôle est surtout un rôle de formateur. Et c'est ça qui a fait que la multiplication s'est enclenchée. Et c'est mon dada, et c'est ce qu'on continue à faire maintenant dans les nations, en essayant de là où nous allons, de susciter, de former des gens à développer des mouvements de multiplication d'églises et de disciples, de disciples et d'églises, qui ont pour but la transformation des zones dans lesquelles ils interviennent. Voilà. On va prier d'une manière générale, parce qu'en fait, quand vous approchez, ça va prendre beaucoup de temps, parce que ce qu'on aime bien faire quand on prie pour quelqu'un, c'est écouter le Seigneur, donner une parole, et puis alors ça va durer tout le temps. Et ça, on c'est ça. Mais je pense qu'on peut effectivement communiquer quelque chose, une onction, et que ceux qui doivent le recevoir le recevront. La vie avec Dieu, elle doit être une aventure. Elle doit être une aventure, et peu importe où vous êtes, mais elle doit être une aventure qui doit être vécue. Et j'aimerais qu'en fait on puisse prier en disant, voilà Seigneur, moi je renonce à cette vie, parce que sans qu'on s'en rende compte, on construit petit à petit une zone de sécurité où on veut mener la vie la plus confortable possible, où on ne va pas nous déranger trop. Et le Seigneur veut nous déranger. Il dit, est-ce que je peux te déranger ? Martine, dans les premières années du ministère, elle avait l'habitude de prendre un billet. Elle dit, Seigneur, je te donne ce billet et je ne veux pas le reprendre. Ma vie, c'est comme un billet de 100 euros. Ça a beaucoup de valeur. Et je veux te donner ce billet pour que tu le dépenses comme tu veux, Seigneur. Dépense ma vie comme tu le veux, pas comme moi j'ai prévu. D'accord ? Et je prie pour que cette onction, Seigneur, on veut venir devant toi. C'est comme si tu nous attires vers le haut. C'est comme si tu nous fais monter sur une montagne pour voir les choses avec ta perspective. Et pas juste là, en étant là, dans notre quotidien extrêmement occupé. Mais on veut monter au-dessus. On veut monter sur la montagne et avoir ton regard. Qui montera sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Viens, monte, monte, monte et regarde. C'est comme Abraham, Seigneur, tu l'as fait. C'est comme Moïse, c'est comme Abraham, tu as dit, regarde, regarde, ce pays, je te le donne. Seigneur, tu veux nous donner des zones, tu veux nous donner des peuples, tu veux nous donner des quartiers, tu veux nous donner des villes. Mais Seigneur, on n'a pas pris le temps de regarder. Et d'entendre que toi, tu nous le donnes. Toi aussi, tu as dit, donne-moi, Père, les nations pour héritage, les extrémités pour possession. Et ensuite, tu es allé voir tes disciples et tu leur as dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, allez, allez. Seigneur, tu veux nous donner cette autorité pour aller, pour parler en ton nom, pour montrer qui tu es, pour démontrer ton royaume. Seigneur, merci pour les ouvriers potentiels qu'il y a là, ceux qui sont déjà en marche depuis longtemps, ceux qui ont commencé la marche, ceux qui ne l'ont pas encore commencé. Mais Seigneur, nous te prions pour chacun. Seigneur, que tu renouvelles cette vision de la vie chrétienne comme une aventure. Comme une aventure ensemble, mais une aventure. Et Seigneur, cette onction apostolique, Seigneur, nous prions qu'elle se répande sur chacun d'entre nous. Comme s'il y a quelque chose en nous qui dit, moi je veux cette montagne. Comme Caleb qui a dit, je veux, donne-moi, je la prends. Seigneur, tu nous donnes cette foi, cette onction apostolique de dire, je veux, même si ça semble impossible. Parce que c'est vrai que c'est impossible. Mais toi, tu as déjà prévu de faire quelque chose là-bas, avec tes ouvriers. Alors Seigneur, on veut simplement te dire, me voici Jésus. Envoie-moi, dépense ma vie comme tu le veux. Seigneur, il n'y a pas de cause plus belle que de te faire plaisir, que d'honorer ton nom et que ton royaume avance. Tu nous as même dit de prier comme ça, que ton règne vienne. Et c'est ce qu'on est en train de prier. Seigneur, que ton règne vienne au travers de moi. Seigneur, tu as décidé de travailler sur la terre au travers d'hommes comme moi, comme toi, comme mon voisin. Tu as décidé de travailler avec des ouvriers qui se mettent à l'écoute. Et Seigneur, je prie même que dans ce temps-là, maintenant, tu parles. Tu parles de territoire. Tu parles de même peut-être de rêves, comme Martine avait dit, d'enfants. Des choses qui sont cachées, mais qui doivent ressusciter, qui doivent maintenant apparaître à la lumière. Merci Seigneur, parce que tu veux faire des exploits tu veux faire des choses extraordinaires avec des hommes ordinaires. Merci Seigneur. Nous voici en étant devant toi, en étant ordinaires, vraiment très ordinaires. C'est Paul qui disait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont élevés parmi vous, mais tu veux confondre les choses fortes de ce monde au travers de ton peuple. Seigneur, il y a des gens qui vont être envoyés ici, mais il y a d'autres qui vont être envoyés plus loin dans la région, plus loin dans les nations. Ô Jésus, je prie qu'ici, il y ait ce mouvement. Il y ait ce mouvement qui se met en route dans le nom de Jésus, où l'Esprit de Dieu, constamment, est en train de pousser les gens dans la moisson. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, parce que tu nous bénis pour qu'on soit une source de bénédiction. Et Seigneur, je prie vraiment pour que tout ce qui pourrait comme boucher ce flot de bénédiction en nous, vraiment tu le fasses sauter, pour qu'on puisse devenir cette source, vraiment. Seigneur, je prie aussi que ici au milieu de nous, c'est comme si parfois on a de la peine à entendre ta voix, Seigneur, comme si les canaux dans notre oreille est bouché. Et Seigneur, je prie vraiment que tu débouches nos canaux pour qu'on puisse vraiment entendre ta voix et qu'on puisse rentrer dans les œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci pour ces œuvres qui sont préparées d'avance. Merci parce que pour chacun, on a une destinée. Seigneur, tu nous as créés et tu as préparé des œuvres pour nous. Et tu as préparé vraiment une vie fructueuse où tu veux qu'on porte du fruit, Seigneur. Qu'on aille et qu'on porte du fruit, Seigneur. Et tu nous envoies pour cela. Et je veux bénir encore ce soir mes frères et sœurs, te remerciant pour les avoir créés, de leur avoir donné la vie, pour la destinée qui est la leur dans les nations, y compris la France. Amen. Mm-hmm.